Bienvenue à toutes et à tous. Marhaba bikoum. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une autre femme d'aujourd'hui, une vraie femme marocaine dans son temps, une femme qui a compris très tôt que finalement, les rêves pouvaient changer, les envies pouvaient évoluer et pouvaient s'adapter, pouvaient être encore plus révélatrices de talents et de secrets cachés.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Lassana Asrkat, bonjour, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lassana?
Super bien, merci Yasmine. Comment vas-tu?
Ça va, alhamdoulilah. Comment se passe Ramadan?
Super, Ramadan, comme tous les Ramadan, c'est toujours un mois différent, un mois sacré, dans lequel on se sent bien, on se connecte à soi, c'est super.
Alors toi, Sana, tu es une spécialiste en RH, en accompagnement. Est-ce que justement, il y a des demandes particulières au mois de Ramadan?
Non, pas vraiment. À part que l'activité formation, accompagnement en entreprise, surtout la partie coaching collectif, c'est-à-dire c'est une activité qui est morte pendant le mois de Ramadan.
Oui, c'est vrai, il n'y a pas de travail, c'est un mois mort pour vous?
Ben non, en fait, moi, parce que j'ai plusieurs casquettes, je parlais en fait du coaching collectif, c'est-à-dire tout ce qui est workshop, tout ce qui est formation en groupe, c'est quelque chose qu'on ne fait pas pendant le mois de Ramadan. Par contre, la partie relative au coaching individuel, où les personnes viennent en cabinet, donc ça continue, au contraire, les gens continuent à faire leurs séances, et voilà, donc, et aussi l'accompagnement en conseil. On continue à travailler comme n'importe quel autre métier.
Ok. Alors, maintenant, Sana, justement, le conseil, les RH, comment tu es arrivée dans ce monde-là?
Ouais, c'est toute une histoire.
C'est ton parcours de vie, justement.
Oui, exactement. Mais écoute, moi, j'ai commencé à travailler en tant que salarié. Bon, avant de commencer à travailler, donc j'ai obtenu mon bac scientifique. Donc, je voulais faire par la suite, l'administration des affaires. Et donc je voulais le faire en France, mais j'ai pas pu le faire parce que à cette époque-là, en fait, le jour où j'ai obtenu mon bac, en fait, l'année où j'ai obtenu mon bac, mon père devait se lancer pour son propre compte, donc il s'est séparé de son associé, donc financièrement il ne pouvait pas me financer mes études en France.
Oui.
Et puis il avait aussi ma grande sœur, mon grand frère qui faisait aussi des études. Donc il m'avait promis, il m'a dit l'année prochaine je peux faire quelque chose pour toi. Donc cette année débrouille-toi.
Comment tu l'as pris justement?
Ben très mal, très mal. Oui, très mal parce que je me suis dit bon écoute qu'est-ce que je vais faire cette année et vraiment je voulais faire mes études à l'étranger parce que pour moi ce n'était pas uniquement les études qui m'intéressaient mais c'était beaucoup plus la découverte, le fait de vivre seul, le fait de devenir autonome. D'ailleurs depuis quand je dis jeune âge, à partir de l'âge de 16 ans, j'habitais toute seule avec mon frère parce que mes parents étaient sur une autre ville. Et en fait, ils habitaient avec nous, mais au moment où mon père devait se lancer, il devait quitter pour une autre ville, donc il ne voulait pas nous déstabiliser. Donc on est resté sur Rabat. Donc j'ai obtenu mon bac alors que mes parents n'étaient pas là. Donc j'étais déjà autonome, donc je rêvais de cette vie, d'être vraiment toute seule, de vivre dans une autre culture et d'explorer d'autres lieux, d'autres cieux. Et donc, j'ai passé l'année, je me suis dit, écoute, tu vas pas passer l'année à croiser les bras, pourquoi ne pas t'inscrire à la fac? Bon, la fac, à ce moment-là, c'était juste une bouée de sauvetage pour tout le monde. C'est pas sérieux, c'est pas les études, c'est-à-dire qu'on aspire, etc. Mais bon, je me suis dit, ok, vas-y, fais-le. Et donc, j'ai passé l'année, en étant inscrite, mais je n'assistais pas beaucoup aux cours. Donc, j'ai rencontré des amis qui étaient aussi inscrits à la fac. En fait, quand il restait un mois pour passer l'examen, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ne pas se mettre à travailler
Pourquoi pas?
Ah oui, moi je suis dans pourquoi pas encore aujourd'hui. Ah oui, parce que qui ne tente rien n'a rien.
Rien, c'est vrai.
Ah oui,
mais c'était pourquoi le pourquoi pas se mettre à travailler pour passer les examens?
Je me suis dit tant que j'y suis et pourquoi pas ne pas essayer. Peut-être que c'est quelque chose qui va me plaire, peut-être. Et puis je me suis dit c'est une année qui va passer comme ça. Alors, autant en profiter. Et puis, aussi, les amis qui m'entouraient, qui travaillaient, etc., ça m'encourageait. Donc, je me suis mise à travailler. Et ben, j'ai décroché ma première année avec mention.
Ah, super. Bravo.
Oui, ouais. J'ai réussi. Et puis, en fait, on avait l'oral après. Donc, ça fait... j'avais qu'une semaine pour préparer l'oral. Et tu sais, Yasmine, j'avais un livre, je me rappelle très bien, c'était un livre de droit, d'introduction au droit marocain, qui comptait, je pense, 250 à 300 pages, avec deux autres matières que je devais préparer en une semaine. Et je me suis mise, je dormais 6 heures, et j'étais vraiment comme une horloge, donc j'étais comme un vampire, je faisais que travailler, et j'ai réussi aussi mon oral. À la première session. Donc là, vraiment, c'était, c'était une découverte de moi-même. Et c'est là où j'ai compris que j'avais beaucoup de ressources, j'avais beaucoup de capacités. Il fallait juste que j'y croie et que je fasse. Et puis, j'ai changé d'avis. Et je suis restée au Maroc, même si j'avais l'opportunité de partir en France.
Alors justement, pourquoi ? Pourquoi avoir changé d'avis ?
Ben parce que j'ai senti que j'ai trouvé quelque chose de sympa, qui me plaisait. D'ailleurs, de toute façon, l'administration des affaires en France ou l'économie, les études économiques, c'est un peu quelque chose qui se rejoignent. Et puis, je me suis dit, pourquoi je vais rater mon année ? Je n'allais pas avoir l'équivalence. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu perds ? Et donc, j'ai obtenu ma licence. Et l'humain, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'étais très intéressée par la psychologie. Je lisais beaucoup sur la psychologie, sur les relations humaines, sur la sociologie. Par hasard, j'ai entendu parler d'un master. À l'époque, c'était un DESS à l'école Hassania des travaux publics sur la gestion des ressources humaines. Et donc je me suis intéressée à ça, donc je suis allée, je me suis renseignée, j'ai passé l'entretien. C'était un DESS dans lequel on acceptait qu'une personne en fait qui venait de la formation initiale, donc ils n'ouvraient pas ça aux jeunes en fait qui ne sont pas expérimentés, donc c'était beaucoup plus pour des gens qui ont passé 2 ans, 3 ans dans l'entreprise, et donc ils ouvraient la possibilité à une seule personne d'intégrer le cycle, donc alhamdoulilah, j'ai été acceptée. Et donc, j'ai fait mon DESS. Et après mon DESS, en fait, j'étais obligée de passer un stage en entreprise. C'était une entreprise agroalimentaire qui est connue sur la place. Et après mon stage, ils m'ont proposé un CDI. Et donc, je me suis lancée dans la carrière RH. Donc, j'ai passé quand même 6 ans dans cette entreprise. J'ai grimpé les échelons. J'ai commencé en tant que responsable de la formation. Après, j'étais promue en chef de service gestion des emplois et des compétences. Et après, je me suis dit, donc il est temps de changer et d'aspirer à quelque chose de plus intéressant, de plus large. Et donc, j'ai commencé à changer à chaque fois l'entreprise. J'ai passé quand même une quinzaine d'années, moins, je pense, 14 ans en tant que salarié dans l'entreprise. Donc, le dernier poste, c'était un poste de DRH. Et c'était ça mon objectif. Quand j'ai commencé à travailler dans les ressources humaines, mon objectif, c'était de devenir DRH. Pour moi, c'est comme ça que je vais vraiment me confirmer et être capable de me lancer dans quelque chose de différent. Après, bon, pendant tout ce temps, je me suis mariée entre-temps, j'ai eu des enfants.
Donc l'aspiration, le rêve de partir, etc., de vivre une forme d'autonomie finalement ? Tout c'est
fini.
C'était fini.
Oui, en plus, ce qui était génial, c'est que bon, j'ai vécu cette autonomie parce que j'ai vécu toute seule à Rabat pendant 4 ans. Donc j'étais dans un studio toute seule. Mon père m'a loué le studio. J'étais toute seule à Rabat parce que mes parents devaient partir. Même mon frère qui était avec moi, il devait rejoindre mes parents dans la ville où ils habitaient. Donc finalement, j'ai vécu cette vie. J'ai vécu cette autonomie. J'ai vécu cette liberté. J'ai vécu. Tu vois, donc si tu veux, je ne pensais plus à l'étranger autant qu'avant, parce que j'ai trouvé quand même d'autres façons de vivre ce que je voulais vivre. D'ailleurs,
alors justement, Sana, de t'interrompre, ce point-là est très important parce que beaucoup, beaucoup de jeunes, quand ils décrochent leur bac, veulent partir à l'étranger principalement, enfin, ça pèse aussi dans la balance, pour ce point en particulier, vivre une autonomie, une indépendance, une liberté. Et toi, tu dis, ben, finalement, même en restant dans mon pays, en ne vivant pas sous le même toit que mes parents, donc j'arrivais à vivre ça.
Effectivement. D'ailleurs, c'est ce que je voulais te dire. En fait, des fois, on s'acharne sur certaines choses pour obtenir un objectif. Et là, j'ai compris que finalement, cet objectif, je peux l'avoir, mais je peux même changer de trajectoire et avoir le même objectif. Tu vois, on n'est pas obligé de suivre la même trajectoire pour avoir le même objectif. Donc, je voulais ça, je l'ai obtenu, même en étant au Maroc. Et je ne le regrette pas, parce que les meilleurs moments de ma vie, je les ai passés en tant qu'étudiante. Donc, vraiment, si c'était à refaire, je le referais de la même manière.
De la même manière.
Et puis, comme
ouais.
je t'ai dit, j'ai pu quand même, avec ma persévérance, je me suis découverte, en fait. Vraiment, je me suis découverte cette première année. Moi, je me suis dit, waouh, est-ce que tu as réussi ça en un mois? Et quand j'ai eu cette croyance, je l'ai développée dans tout ce que je fais aujourd'hui. Ça veut dire que, Ça a influencé ma façon d'être, ma façon de faire.
Tu es capable.
J'ai compris que, voilà, exactement. J'ai compris que quand on veut quelque chose, on l'obtient. Mm. On met le moyen et on l'obtient. Bon, je ne dansais pas à cette époque-là. En fait, pendant un mois, j'étais comme un robot. D'ailleurs, je me rappelle très bien, j'habitais avec mon frère dans la même maison. C'était la première année où on habitait tout seul. Après, je suis restée toute seule. Quand j'ouvrais la porte de ma chambre, il savait que c'était midi. Quand j'ouvrais la porte l'après-midi, il savait que c'était 18h, parce que je me suis fixé un objectif de ne pas bouger de ma chambre, de travailler pendant 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, 4 heures le soir. Je travaillais 12 heures par jour. Mmh.
Ouais, vraiment, mais en même temps, ça t'as pas bossé toute l'année, hein.
Ben voilà, justement, ça m'a permis de savoir comment je fonctionnais.
C'est ça.
Je peux fonctionner autrement. Et d'ailleurs, j'invite toute personne à explorer sa façon de fonctionner, parce que c'est comme ça qu'on peut avoir de la performance, avoir de l'efficacité. C'est en usant de nos propres ressources. D'abord, il faut les connaître.
Alors justement, une question. Est-ce que tu bosses encore sous stress? Est-ce que tu n'es efficace que sous stress?
De moins en moins.
Ça veut dire que c'est encore présent. Tu as encore besoin d'être sous pression.
Oui, oui. Ah oui, oui. Mais de moins en moins. Parce que là, aujourd'hui, avec les, comment dirais-je, les engagements, je planifie beaucoup. Je travaille avec plusieurs entreprises. Moi, j'ai plusieurs casquettes, comme je t'ai dit. J'accompagne en entreprise, les groupes, les équipes, etc. Mais j'accompagne aussi en individuel et je suis sur des missions de conseil. Donc, je ne peux pas me permettre de travailler sous pression tout le temps. Je dois planifier, d'accord? Parce que je dois savoir le rendu que j'ai, le délai, etc. Je dois honorer mes engagements. Et donc, je ne peux pas travailler tout le temps sous stress. Mais par contre, quand je planifie et je sais que j'ai, par exemple, tant d'heures à travailler, pour un livrable, donc je vais consacrer ces 3 heures, même si à partir de minuit, je vais travailler jusqu'à 3 heures du matin. Tu vois, et c'est ça, en fait, ce qui est génial dans la profession libérale, c'est que tu n'as plus la contrainte du temps. Tu gères ton temps comme toi tu veux. Mmh. Comme toi tu veux.
Tu dois livrer, c'est le plus important.
Tu dois livrer et assurer tes engagements.
Alors, justement, en parlant de ça, il y a aussi, pas au Maroc peut-être, je parle sous contrôle, bien évidemment, de l'experte que tu es, mais dans d'autres pays, certaines multinationales, certaines entreprises commencent à fonctionner par ça. C'est-à-dire que le plus important, c'est de livrer. Les salariés sont eux-mêmes responsables de leur planning de travail, de leur temps de travail. Et voilà, ils sont arrivés à comprendre que le plus important... Et c'est aussi la pandémie qui a poussé à ça, non?
Oui, qui a poussé à ça, et je pense que c'est tout à fait vraiment naturel de laisser chaque personne, comment dirais-je, c'est une sorte aussi de motivation que l'entreprise peut donner à ses salariés, c'est cette liberté, c'est de travailler sur objectif, par objectif. On ne travaille pas par rapport au nombre d'heures de travail. C'est-à-dire qu'on ne doit pas juger les personnes par rapport au nombre d'heures du travail. On doit les juger par rapport à leur performance, à leur efficacité, au rendu, à la qualité de leur travail. Et ça dépend de chacun. Moi, par exemple, je vais te dire, moi, je suis beaucoup plus créative à partir de 11 heures du soir. C'est là vraiment où je suis dans la créativité, parce qu'il y a un calme qui s'installe à la maison, parce que je suis inspirée, parce que je suis dans mon lit, je travaille beaucoup dans mon lit, d'accord? Et donc je suis dans un état, dans un environnement qui me permet d'être créative et d'être performante.
Alors, votre conjoint, il pense quoi de ce mode de ce bureau installé dans le lit conjugal? Bon, pour faire court.
Je l'inspire. Hein. Au début, il me disait, je ne sais pas comment tu travailles. Moi, je n'arrive pas à travailler que c'est lorsque je suis dans un bureau. J'ai dit, tu sais, c'est le luxe que j'ai d'être vraiment autonome et d'être dans l'entrepreneuriat. Il ne comprend pas ça, il n'arrive pas à faire comme moi. Mais moi, je le fais et vraiment, je me sens super bien.
Mais il ne trouve pas que ton travail l'envahit, justement? Tu le ramènes dans le lit, en fait, dans votre lit conjugal?
Ben, écoute, ça dépend. Quand je te dis que je travaille dans mon lit, c'est pendant la journée aussi, lorsque je suis pas en cabinet, parce que je suis pas c'est-à-dire en entreprise.
Oui.
Quand je produis, maintenant, bon, le soir, quand je te dis à 11h du soir, quand je dis dans mon lit, ça peut être dans le salon, sous une couverture.
C'est ça, c'est
donc
ça.
Je suis pas, voilà. Donc, c'est vraiment dans, c'est pas dans, comment dirais-je, sur un bureau, c'est pas comme la manière conventionnelle de travailler.
C'est le confort absolu.
Je peux travailler dans la cuisine, eh ben voilà, je peux travailler dans n'importe quel endroit. L'essentiel, c'est que je sois bien et que ça soit pas conventionnel. Je sens, en fait, je veux prendre conscience tout le temps de cette liberté que j'ai. Voilà, donc j'en prends conscience. Et plus j'en prends conscience, plus que ça me donne du bonheur et ça me donne du bien-être. Voilà, je fonctionne comme ça.
Alors, les enfants sont arrivés à quel moment de tout ça?
Ben écoute, les enfants, ils sont arrivés à tous les moments. Il y en a quatre déjà.
Tabarakallah, ahfadhom.
Ils vont, Amine. Ben, le premier, c'était dans la première entreprise. Le cadet, c'était dans la deuxième entreprise. La troisième, c'était dans la quatrième entreprise. Et la quatrième, c'était dans
l'entrepreneuriat.
Voilà, donc c'était la période de l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment génial parce que c'est elle qui a profité le plus de moi.
Oui.
Et parce que je travaillais alors qu'elle était à côté de moi, donc j'ai profité d'elle et elle a profité de moi.
Ça t'a permis de vivre une autre maternité, justement?
Oui, une autre maternité, parce que je m'organisais, je prenais autant que je pouvais, donc je n'étais plus contrainte de quitter la maison, de la laisser avec une personne étrangère, tu vois, donc vraiment ça m'a permis de vivre la maternité d'une autre manière. D'ailleurs, notre relation, elle est hyper différente et je suis hyper proche d'elle. Je suis hyper proche de tous mes enfants. Mais avec elle, c'est un peu spécial parce qu'elle a vécu beaucoup avec moi.
Et les grands, ils ne sont pas trop jaloux?
Ben non, c'est des hommes maintenant. Hein. L'aîné, il a 17 ans, donc il est en terminale cette année. Non, pas du tout. Mes enfants sont hyper compréhensifs et ils m'ont accompagnée justement dans mon changement. D'ailleurs, moi, je suis très proche de mes enfants et je parle beaucoup avec eux de ce que je fais. Je partage beaucoup avec eux ce que je fais, ce que j'apprends. Donc, mon fils aîné, il travaille avec moi pratiquement parce qu'il est doué dans l'informatique et dans l'infographie. Et donc, il est beaucoup avec moi dans l'entreprise. Donc, c'est lui qui a fait mon site Internet. C'est lui qui fait le montage de mes vidéos, les bannières sur YouTube. C'est lui qui s'occupe de toute la partie digitale de ce que je fais.
C'est incroyable, cette génération. Hein. Il est au bac.
Oh, c'est... Wow.
Et déjà, enfin, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait de formation. C'est...
Pas du tout. C'est un enfant qui est autodidacte par rapport à ça. D'ailleurs, il compte faire ses études dans le même domaine. Et voilà, donc ça m'a permis d'être proche de lui d'une autre manière. Et on parle beaucoup...
Et comprendre sa passion aussi, ce qu'il aime maintenant.
Exactement. Ben, le cadet, il est un peu loin. Par contre, on discute. Donc, on a en fait cet échange au quotidien avec nos enfants. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, même la petite... Il s'inspire de moi et je m'inspire beaucoup d'eux. Je suis une accompagnatrice en entreprise, mais j'estime que je suis aussi une accompagnatrice en tant que maman parce que c'est un travail à plein temps. Ce n'est pas facile. C'est un rôle qui est difficile et c'est un poste duquel on ne peut pas démissionner.
Du tout.
Contrairement à tous les autres.
Exactement.
Postes qu'on peut avoir. Et des fois, on se dit, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on ne fait pas bien? Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, quand tu es dans cette communication, quand tu es dans cette relation proche avec tes enfants, ça te permet aussi de te remettre en question et de changer les choses parce qu'ils arrivent à exprimer ce qu'ils veulent, ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Et il y a cette ouverture-là. C'est vrai que des fois, c'est agaçant, mais c'est aussi avantageux parce que ça te permet de comprendre un peu comment ils fonctionnent et qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce que tu dois changer en toi. D'ailleurs, je pense qu'on est tous un travail en cours. Et moi, j'estime que je suis un travail en cours et que on est, tant qu'on est dans cette vie, on est dans un apprentissage continu. Et heureusement, sinon, on va s'ennuyer.
Complètement, absolument. Et heureusement que, voilà, il y a cette prise de conscience que l'ouverture est toujours possible, quel que soit l'âge. La quarantaine, tu l'as vécu comment, Sana, justement ?
Ben, aucun changement. Moi, j'estime que, voilà, aujourd'hui, j'ai 45 ans. Et moi, dans ma tête, j'ai 28 ans, 27 ans.
Parce que pour beaucoup, 40 ans, c'est un seuil, c'est un milestone important dans la vie.
Ben, je ne l'ai pas senti.
Non.
Du tout. En fait, moi, j'estime que chaque jour qui passe, je change. D'accord ? Ça, je le sens. Et pour moi, c'est pas la notion de l'âge n'a rien à voir là-dedans. Vraiment. Donc, 40 ans, 60 ans, 20 ans, pour moi, c'est la même chose. À partir du moment où je sens que... Parce que mon objectif, c'est d'être heureuse, d'être épanouie, d'être bien, donc je veille sur ça, de me ressourcer, d'apprendre, de rester curieuse, d'explorer. Donc l'âge pour moi ne change rien. C'est plutôt les heures que je passe peut-être à apprendre, à observer, à changer, tu vois, à m'améliorer. C'est ça ce qui m'intéresse. L'âge, pour moi, c'est pas...
Tu aurais pu être... tu aurais été comme ça, même si tu n'avais pas suivi ce chemin, parce que dans l'accompagnement des autres, on s'accompagne aussi soi, beaucoup.
Beaucoup, bien sûr. Quand tu accompagnes les autres, tu apprends aussi sur toi, et tu apprends aussi sur ta façon de faire, et c'est un métier qui est très, 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 très enrichissant, parce que plus tu prends plus que tu donnes. Et pour répondre à ta question, je ne pense pas. Je ne pense pas que j'aurais été la même si j'avais suivi un autre parcours. J'aurais été peut-être c'est-à-dire une autre, mais comme ça, avec cette manière de réfléchir. Et voilà, donc je pense que c'est important de prendre conscience de ce qui est important pour nous, de savoir pourquoi on est là. Quel sens on donne à notre vie, parce que c'est comme ça qu'on peut se faire plaisir.
Merci voilà. Donc, beaucoup, Sana. Merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci infiniment pour ce bel échange.
Merci à toi. Merci pour ton invitation. J'ai passé un bon moment avec toi. D'habitude, on m'invite pour parler d'un sujet particulier, du coaching, de l'hypnose, de l'RH. C'est la première fois qu'on m'invite de parler de moi. Et ça m'a fait vraiment plaisir de m'ouvrir à toi.
L'alerté.
Et de donner un bout de moi-même.
L'alerté, Xana. Voilà. Merci beaucoup pour ta confiance.
Merci.
Je suis touchée.
Merci.